que nous voyons que tu es avec nous en toutes choses, malgré toutes ces attaques de l'ennemi. Et nous voulons te demander de continuer ta grâce et de nous saisir, de nous posséder. Tu es puissant pour le faire et nous croyons qu'il en sera ainsi aujourd'hui. Bénis-nous dans cette étude, captive nos pensées et donne-nous ton intelligence et ta sagesse en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Pensons notre étude de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, 23 à 40, dans ce thème, les droits du Fils de l'homme, dans ce 20 août 1980. Le rapport du numéro 1. Alors maintenant, nous apportons la conclusion à nos ateliers du 20 août 1980 sur les textes étudiés dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 40. Et il m'a semblé que le Seigneur me disait que je devais vous relire simplement cette portion. Depuis le verset 23e. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Alors nous avons vu qui étaient ses parents. Et si vous lisez dans le chapitre, les premiers chapitres de l'Exode, vous verrez dans quelle situation se trouvaient ses parents, dans quel climat ils vivaient, et quand Jochébed, femme d'Aram, il est dit un fils de Lévi, prit pour femme une fille de Lévi. Vous avez déjà là tout un enseignement. Quand on est croyant, qu'est-ce qu'on prend pour femme?
Une croyante.
Une croyante. Ou si nous sommes une croyante, qu'est-ce qu'on prend? Non, qu'est-ce qu'on accepte? Mon mari? Un croyant. Et on sait dire non à un incrédule, tout en pouvant l'aimer et prier pour lui. Mais ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Il faut savoir dire non. On ne peut pas commencer par une désobéissance et puis ensuite demander la bénédiction de Dieu. Quand on a la connaissance, c'est clair. Et alors, pendant 3 mois, les parents de Moïse l'ont caché parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'était le pharaon qui voulait faire périr tous les enfants mâles d'Israël. Et qui était dans le cœur du pharaon pour faire une chose comme ça? C'était le diable. Et pourquoi détruire les enfants mâles? Qu'est-ce que Satan avait derrière la tête? Mais qui devait naître de cette lignée? Le Messie. Alors, il essaye de détruire cette race d'où doit naître le Messie. Et il est presque arrivé au temps d'Athalie. Il n'y avait plus qu'un membre de la famille royale descendant de David. Il s'appelait Joas. Hein? Joas. Et c'est toujours, cet antisémitisme vient du fait que le Messie doit naître de ce peuple. Et alors, dès qu'on sait que c'est du ce peuple hébreu, eh bien, c'est le peuple hébreu qui sera persécuté. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Alors, il n'y a pas de difficulté là. Vous savez pourquoi il a pu refuser? Parce qu'il connaissait les promesses de Dieu concernant son, le peuple d'Israël, qu'il avait enseigné sa propre mère pendant quelles années de sa vie? Jusqu'à ses premières années. Et c'est l'enseignement qu'il avait reçu dans ses premières années qui est resté dans son cœur. Et il refuse d'être appelé le fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que, évidemment, à la cour du Pharaon, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tandis que le peuple hébreu, lui, il était aux corvées, traité durement comme des esclaves. Eh bien, alors qu'il peut jouir des facilités, des délices de la cour du Pharaon, il préfère s'en aller partager la souffrance de son peuple. Et cette souffrance, il la regarde déjà comme l'opprobre de qui? L'opprobre de Christ. Ceux qui ont souffert avant le Christ, ils souffraient déjà pour le Christ. Comprenez-vous? Parce que c'était là leur seule espérance, celui qui devait venir. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait que ces biens qu'il avait en Égypte n'étaient que pour un temps, tandis que ce qu'il aurait, ce serait des biens éternels. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est vraiment le sixième sens, le sens de l'invisible, la foi. Et vous voyez, la foi donc nous amène à un choix, la foi nous amène à un refus, nous donne cette force de pouvoir refuser certains avantages, la foi nous amène aussi à discerner ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est pas toujours ce qui apparaît être le plus favorable pour la chair. Mais la foi nous donne un discernement. Et c'est ce discernement que Paul demande pour les Philippiens, que vous puissiez discerner les choses les meilleures. Eh bien, Moïse avait déjà ce discernement. C'est la foi qui nous donne ce discernement. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Et cette colère, elle s'est bien vite manifestée, puisque le roi est monté sur son char avec toute son armée pour les poursuivre. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne les touchât pas, ne touchât pas au premier-né des Israélites. Vous savez que ce jour-là, cette nuit-là, dans le pays d'Égypte, c'était la dixième plaie, puisque le Pharaon s'était endurci, eh bien, Dieu allait frapper plus fort, et ce serait la dernière plaie. Qu'est-ce qui se passerait? L'ange exterminateur tuerait tout le premier-né en Égypte. Et comme les Israélites habitaient l'Égypte, les premiers-nés des Israélites devaient mourir aussi. Tous les premiers-nés qui seraient en Égypte devaient mourir. Mais Dieu donne une possibilité aux enfants d'Israël de ne pas connaître la mort de leur premier-né. Mais qu'est-ce qu'il fallait que le père fasse? Il fallait qu'il prenne un agneau sans défaut, qu'il le mette sous garde jusqu'au 14e jour, et puis, le 14e jour, il devait l'immoler. Entre les deux soirs, c'est quelle heure? C'était 3h de l'après-midi. Entre les deux soirs, à l'heure où on immole les agneaux, maintenant, pas maintenant, mais du temps du Seigneur à Jérusalem, et le Seigneur lui-même, l'agneau de Dieu, il est mort entre les deux soirs vers la... Non, vers la neuvième heure, qui est quand, quelle heure? 3 heures de l'après-midi. Eh bien, vous voyez, tout ça, c'est, ce sont des enseignements que vous pouvez retenir. Ce sont des types, des figures de ce qui allait venir. Alors Moïse, lui, il aurait pu se dire, mais nous, puisqu'on est des enfants d'Israël, on ne sera pas atteints. Qu'est-ce qu'il devait faire? Exactement ce que Dieu avait ordonné. Chaque père israélite devait prendre cet agneau, prendre du sang, en mettre sur les linteaux des portes. Comme Rab avait dû mettre le cordon, ou devrait mettre plus tard, le cordon écarlate. Et c'est toujours cette idée que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'ange exterminateur verrait le sang. Et sur toute maison, il y aurait du sang, ceux qui seraient à l'intérieur de la maison seraient à l'abri. Et alors l'agneau, ce soir-là, cette nuit-là, on devait manger l'agneau rôti avec du pain sans levain, des herbes amères. Eh bien, Moïse a exécuté exactement ce que l'Éternel avait dit. Alors vous voyez, une famille israélite mangeant la Pâque, les reins saints, les sandales aux pieds et le bâton à la main, c'est-à-dire prêt pour le départ, parce que c'était cette nuit qui devait partir. Mais l'ange exterminateur, à minuit, allait passer dans les maisons. Quel devait être l'état d'esprit des gens réunis? Il y avait le fils aîné qui était là. Qu'est-ce qui devait faire l'assurance du fils aîné? Il savait que lui aussi devrait mourir. Mais qu'est-ce qu'il avait vu faire? Son père avait mis le sang. Papa, c'est sûr qu'il y a mis le sang? Mais tu crois qu'il verra le sang? Il l'a dit. Pour qu'ils soient en paix, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'ils sentent que l'ange ne viendra pas? Mais ils ne sentent rien du tout. C'est la nuit. Et il sait que l'ange va passer. Est-ce que c'est une question de sentir? C'est une question de croire. Vous pouvez peut-être rien sentir. Mais est-ce que c'est sûr? Le Seigneur a dit, je verrai le sang. Mais si c'est un ange myope? Est-ce que vous allez discuter? Non, vous êtes en paix. Vous n'avez pas le droit d'être troublé. Mais dans la famille de l'Égyptien, on ne croit en rien. On se moque éperdument de tout cela. Et même on peut dormir. Mais l'ange trouvera l'enfant dans le lit. Peu importe. Tandis que tous les enfants d'Israël, ils étaient debout, prêts à partir. Et voilà un grand cri dans toute l'Égypte. À minuit, on constate les décès dans toutes les maisons égyptiennes. Mais dans les maisons d'Israël, il y avait la vie. Et alors le pharaon dit, maintenant, partez. J'allais dire, partez, partez. Et puis, tout le monde vient, partez, partez. Puis pour les aider à partir, qu'est-ce qu'ils font? Tiens, je te donne ça, puis je te donne ça, puis je te donne ça, puis je te donne ça. Allez, 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 filez. Et c'est ainsi qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. C'est pour ça qu'ils ont pu faire un tabernacle dans le désert, une maison d'or. Parce qu'on leur a donné de l'or. Tout ce que nous désirons, c'est que vous partiez. Pas dire autre chose. À tout à l'heure. Alors ils sont partis avec toutes les richesses de l'Égypte. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Mais tout à coup, les Égyptiens se sont rendus compte qu'ils étaient dépouillés. Et ils ont voulu tout reprendre. Alors, on a suivi le pharaon pour récupérer tout ce qu'on avait donné. Puis on ne veut pas laisser ces esclaves sortir qui va nous servir. Alors, c'est ça qui était la perte. Mais vous voyez que Moïse a observé les commandements du Seigneur, il a célébré la Pâque. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Maintenant, il y a une délivrance, mais maintenant il y a une nouvelle épreuve. Vous voyez que c'est de foi en foi qu'on marche. c'est pas du tout cuit. Oh, maintenant c'est fini, je suis sauvé. Non, tu es sorti. Mais il faut continuer, il faut avancer. Mais il y a la mer, je peux pas avancer. C'est trop long de nager. Puis il y en a peut-être qui savaient pas nager. Mais il faut quand même apprendre à nager. Vous avez l'occasion ici au camp. Alors, on continue. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, parce qu'il fallait vraiment de la foi, des murs d'eau, oui. Mais ce qui a été le moyen de délivrance pour les Israélites, ça a été le moyen de la destruction des Égyptiens. Quand le dernier des Israélites est arrivé de l'autre côté de la mer, et quand tous les Égyptiens étaient engagés, eh bien, les eaux sont revenues. Et c'est le cantique de Marie qui a été chanté, où l'on raconte cette histoire de Pharaon, de ses chars et de ses soldats qui périrent dans les eaux magnifiques. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par les gros canons? Non, c'est par la foi. Mais ils devaient faire sept fois le tour de la ville. Pendant sept jours, une fois, puis le septième jour, sept fois. Et pendant qu'ils faisaient ce tour de la ville, ils devaient se taire. Une marche silencieuse. Mais la dernière fois, ils devaient crier au son des trompettes, et puis les murailles sont tombées. Ça paraît de la folie, mais ces murailles, les fondements, on peut encore les voir à Jéricho. Et quand on est là, bien on se dit, ça s'est passé. Et alors, vous avez l'histoire de Rahab. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Mais pourquoi avait-elle reçu les espions avec bienveillance? Parce qu'elle avait la crainte du Seigneur. Puis parce qu'elle avait cru que les promesses du Seigneur concernant ce peuple s'accompliraient. Elle avait entendu parler de cette délivrance de la mer Rouge. Alors elle se dit, s'ils ont pu traverser la mer Rouge, qu'est-ce que c'est que nos murailles de Jéricho? Elle n'avait pas besoin d'un miracle plus grand. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait. Vous voyez, c'est toujours ça qui manque. Pour parler de Gédéon, et il y en aurait à dire sur Gédéon. Lisez son histoire. De Barak, qui ne veut prendre la tête d'une armée que s'il y a une femme avec lui. Et cette femme, elle s'appelle Déborah. De Samson, et vous connaissez toute son histoire, il a bien commencé, et puis il s'est éloigné du Seigneur. À cause de qui, toujours? À cause de femmes. Hein? Il a aimé une femme d'abord, puis après il en a aimé une autre. Puis après, il en a aimé une troisième. Puis la troisième, elle s'appelait Delila, une belle fille de Sorek, la vallée de Sorek. Et puis le pauvre Samson. Il a perdu la vue. Mais on ne joue pas avec Dieu. Il croyait toujours qu'on peut s'en tirer, hein, que la force qui nous a été donnée, notre consécration, est là. Mais le jour où il dévoile quel était le secret de sa consécration, ses cheveux, qui étaient le signe de sa consécration. Mais quand il a eu perdu le signe, il avait déjà perdu la force avant. Quand elle lui dit les Philistins sont sur soi, il est dit, il ne savait pas que l'esprit s'était retiré de lui. Alors il s'est dit, ça se passera comme d'habitude. Mais cette fois, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. On lui a crevé les yeux, et puis ensuite on l'a mis pour tourner la meule, le travail d'un âne. Le travail d'un esclave. Mais là, il s'est humilié. Et alors, il est dit, ses cheveux ont recommencé à pousser. Symbole d'une nouvelle consécration. Ce n'est pas parce que ses cheveux ont poussé qu'il a retrouvé l'Esprit de Dieu, mais c'est parce qu'il s'est humilié. Ce merveilleux psaume de David, hein, nous montre bien que même si on a pu tomber très bas, s'il y a une réhumiliation, un brisement, la force nous est redonnée. Mais, hélas, Samson mourra aveugle. Mais il a reçu cette force. Et alors, dans ce festival de Gaza, où les Philistins demandent qu'il joue devant eux, il demande à un garçon où se trouvent les colonnes, c'est un aveugle. Et puis, il met ses mains et il prie et il demande à Dieu de lui donner cette force. Et puis, il fait 3000 morts. Est-ce que c'est un grand geste? À la Pentecôte, à la prédication de Pierre, qu'est-ce qu'il y a eu? 3000 conversions. La mort de Samson a provoqué 3000 morts et c'était un serviteur de Dieu. Alors, c'est pas très glorieux, ça. Dieu l'a restauré, mais le fruit, c'était des fruits de mort. Oui, c'était des méchants, mais le Seigneur même, il n'aime pas la mort des méchants. C'est pas ça qu'il voudrait. C'est pas ça qu'il voudrait. Et moi, je ne veux pas être employé pour faire mourir des méchants. Je dois être employé pour sauver des méchants. Tu comprends? Alors, quand un serviteur de Dieu se place dans une situation telle que Dieu l'emploie simplement pour faire ce travail négatif, ben, ce n'est pas à la gloire de ce serviteur de Dieu. Bien sûr que ceux qui sont morts, ces Philistins, étaient sous le jugement de Dieu et s'étaient moqués de Dieu eux aussi. Mais celui qui est employé pour les châtier, eh bien, il meurt avec eux. Il fit plus de morts dans sa mort que dans sa vie. Mais il est mort avec eux. Il est mort avec les Philistins. Alors, passons plus loin. Oui. Non, non, mais alors là, il faudrait que j'entre dans le Nazaréen. Il avait fait le vœu de Nazaréen. Alors c'est toute une affaire là que nous devrions examiner. Samson était un Nazaréen dès le ventre de sa mère. Le Seigneur avait donné des prescriptions pour lui qui devaient être observées. Vous avez ça dans le chapitre 6 des Nombres. Alors il faut étudier la question du Nazaréen et vous comprendrez pourquoi il avait cette force, mais aussi quelles étaient ses responsabilités. Samson a été léger, quoique choisi par le Seigneur, et il ne s'est pas jugé de certaines tendances qu'il avait dans son cœur et qui l'ont coulé quant à son témoignage. Alors, je pourrais parler de Jephté, le juge qui fit un vœu imprudent, parce qu'il avait dit un peu légèrement que le premier être qui sortirait de sa maison, il l'offrirait en sacrifice. Puis voilà, il a pensé que c'était un cochon qui allait sortir quand il reviendrait, hein, parce qu'il avait, du bétail. Non, il n'avait peut-être pas de cochon puisqu'il était, il était israélite, mais disons... un coq peut-être, oui, ou une poule. Et puis voilà, c'est sa fille. Alors, premier être vivant, c'est sa fille, alors il croit qu'il doit l'immoler. C'est pas ce que Dieu voulait. Et c'est justement pour nous montrer qu'il ne faut jamais faire de vœux, de ces vœux imprudents. Ah, si le Seigneur me donne ça, je t'offrirai ça. Vous ne savez pas. Le Seigneur a dit, ne faites pas de vœux. Acceptez ma volonté. Oui, alors, vous voyez, un Hérode qui est un peu éméché, puis qui voit une jeune fille assez gracieuse qui danse devant lui, alors tout à coup il lui dit, demande-moi la moitié du royaume, je te donnerai, t'es tellement belle. Et il dit ça devant tout le monde. Oui, c'était une séance un peu d'ivrogne, là. Hein. Il faisait un grand festin, et puis c'était une danse à peu près nue de la fille, de Salomé. Et puis Salomé, elle va vers sa mère, Hérodiade, et c'est le moment, l'occasion. Puisqu'il veut te donner la moitié du royaume, moi je demande qu'une tête. Mais la tête de qui? C'est Jean-Baptiste. Et pourquoi? Parce qu'il me reproche hein, de vivre alors que j'ai un autre mari, et je vis avec Hérode. Elle n'a pas pu supporter ça. Et alors, évidemment, Hérode, quand il entend ça, ben, il a de la tristesse, mais il est coincé. Parole du roi. Alors on envoie le bourreau. C'est triste, c'est tragique. Vous voyez comme tout cela doit nous enseigner. ne pas nous mettre dans une situation dont on ne pourra pas sortir. Alors on pourrait parler de David, de toute cette vie de David. Et moi, David, c'est un homme qui m'enseigne beaucoup, parce que je vois que c'était le psalmiste d'Israël. Il a écrit des psaumes merveilleux, il a fait des actes extraordinaires, mais dans un moment où il n'a pas su veiller, il a commis un horrible péché. Il n'était pas à sa place quand ça lui est arrivé. S'il avait été à sa place, s'il avait été dans la volonté de Dieu, il ne serait pas tombé. Quand les rois se mettent en campagne, le chef du royaume, il est à la tête de ses troupes. Mais non, il reste pour se reposer à Jérusalem. Quelquefois, le repos ou les vacances, ça peut être aussi un piège. Il faut savoir toutes choses. Mais aussi, la fatigue peut être aussi un piège. Hein? Parce que le diable, il essaye toujours de nous avoir quand on est dans une situation pas très bonne. Et alors, c'est là qu'il va essayer de nous donner le dernier coup de pique. C'est pour ça qu'il nous faut veiller, pour ne pas nous laisser surprendre. Mais voilà, notre David, s'il regarde ses yeux, il a vu une belle femme qui se baignait sur la terrasse, et puis il l'a fait venir. Pourtant, il en avait assez chez lui. Non, mais c'est une autre. Bon. Alors, voilà. Puis qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait ce que les hommes font. Puis comme c'est le roi, elle ne peut pas refuser. Elle est sujette du roi. Puis son mari est loin. Puis bon, une fois que ça y a passé, son envie, il la renvoie. Mais au bout d'un mois et demi, elle revient. Je suis enceinte. Un roi qui se met dans un drôle de pétrin. Oh non, mais c'est bien simple. Son mari est au front. On va le faire revenir, une permission. En permission. Puis un homme en permission, c'est bien ce qu'il fait. Il désire aller vers sa femme. Alors, comme ça, ça fera un prématuré. Mais ça arrive, les prématurés. Il a bien mis ça dans sa tête. Alors, il reçoit Uri. Oh, cher Uri, comme je suis content de te voir. Alors, tu as de bonnes nouvelles à m'annoncer? Oui, oui. Alors, je te dis, je te souhaite une bonne nuit, n'est-ce pas, avec ta femme. Puis on lui apprend qu'il n'a pas été dans la maison de sa femme. Il est allé coucher à la caserne. Il est dingue, cet Uri. Il n'est pas normal. Alors il invite le second jour, puis il se dit, il n'y a qu'un moyen pour qu'il aille chez sa femme, c'est de le faire boire. Alors il l'est ivre. Mais même qu'il est ivre, il ne va pas chez sa femme, il va à la caserne. Parce qu'il a encore plus de respect, il s'est bien rendu compte, mais il dit, moi je ne peux pas aller avec mon haleine à dîner. C'est pas possible que je fasse subir ça à ma femme. Mon haleine de vin. Il y en a assez de ces femmes qui doivent supporter ça. Ces hommes qui puent et qui veulent leur femme quand même. C'est effroyable. Ben, Uri, il y a plus de décence que ça. Il n'ira pas chez sa femme. Puis il a une autre raison. Il dit, comment moi j'irai passer la nuit avec ma femme quand mes camarades sont au front et qu'ils peuvent mourir d'un instant à l'autre, puis moi j'oublierai ça? Non, il reste là. Peut-être que c'est un homme très pieux, Uri, et qu'il veut prier. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de tout cela? La volonté de Dieu qui empêche certains hommes de faire ce qui serait tout à fait naturel et ce qui n'aurait pas été un péché. Mais ça n'arrangeait pas les choses. Parce que David aurait été couvert. Mais alors David arrive à se dire, ben, il n'y a plus qu'une chose à faire. Il écrit une lettre à Joab, il la donne à Uri, et puis il dit à Joab, dans un combat, eh bien, mettez Uri à un poste très dangereux et ne le couvrez pas. Dans une armée, on doit toujours couvrir le soldat qui est à un poste dangereux. Non, et qu'il meure. Alors, c'est très facile de faire ça. Et puis, dans toute bataille, quelqu'un doit mourir quand même. Eh bien, c'est lui qui était sacrifié. Donc, tout est en ordre. Quand les nouvelles reviennent chez David et que on lui dit que Uri est mort, il ne faut pas que Joab s'en fasse trop, il y a des moments où l'épée dévore d'un côté, l'épée dévore de l'autre côté. Tout va bien. Et puis au bout d'un mois, pendant un mois, la femme du riz pleure son mari, un bon deuil, hein, un mois de deuil, mais le brave David, il fait un geste admirable. Tout le monde va en parler, qu'il est bon le roi. Il épouse une veuve. Et il fait entrer cette veuve chez lui. Elle est devenue sa femme. Tout est régulier. Il n'a pas perdu la face. Ah, il sait. Il n'a pas perdu la face. Tout ça, c'est bien camouflé. Il est un bon roi. Il aime les veuves. Et voyez-vous, il y a plus de 70 passages dans la parole pour les veuves. Et même Jacques dira que le service religieux pur est son tâche devant Dieu, c'est de visiter les veuves, c'est de s'occuper des veuves. Alors le brave David, quel roi exemplaire nous avons. Mais voilà, l'enfant naît, et puis Nathan le prophète de la cour, et c'est pas drôle. Quand on est prophète de la cour, on dit des choses au roi qui lui sont agréables. Mais cette fois, quand on est prophète, hein, on doit dire des choses des fois très désagréables et où on risque sa vie. Va et dis cela à David. Et puis c'est la petite histoire, là, la petite parabole, vous la connaissez. On n'a pas le temps d'en parler. Vous ne connaissez pas la parabole? Ben voilà, Nathan vient vers David puis il dit, qu'est-ce que tu penses? Il y a une drôle d'affaire ici. Il y avait un homme riche qui a reçu un voyageur une nuit chez lui. Et puis, cet homme riche, qui avait tout, est allé chez un homme pauvre, qui n'avait qu'une petite brebis, et il a pris la brebis de l'homme pauvre pour la prêter pour l'homme riche qui était, pour le voyageur qui était chez lui. Qu'est-ce que tu penses? Et alors, David dit, dans mon royaume, quoi, quelqu'un a fait cela? Un riche est allé prendre la seule brebis de l'homme pauvre pour la prêter pour le voyageur, pour son invité? C'est pas possible. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Tuez cet homme. Tu es cet homme. Et puis, ce que tu as fait, Dieu le sait. Puis il lui raconte l'histoire du riz. Que dit David? Il s'effondre. Il s'effondre, hein? Et il dit, j'ai péché. J'ai péché. Ah, mais alors, ça c'est un cri. J'ai péché. Mais Saül aussi a dit aussi, j'ai péché. Puis il n'a pas été pardonné. Mais pourquoi est-ce que David a été pardonné? J'ai péché. Saül a dit, j'ai péché, mais honore-moi. Tandis que lui, il a dit, j'ai péché. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié, même son humiliation, il l'a écrite et on l'a lu, là au pied de la colline, on l'a lu l'autre jour pour le baptême. C'est le Miserere, c'est le psaume 51. Et alors, vous voyez, l'ambiance qu'exprime ce psaume qui a été pour une multitude d'hommes une bénédiction. Et ce psaume, il allait être lu où? Et chanter où? Dans le temple. Et tout le monde allait savoir ce que David avait fait. Je t'ai fait connaître mon péché. Lisez aussi le psaume 32. Et vous verrez l'état d'âme de David pendant ces 9 mois. Et la délivrance qu'il a eue après, quand il a eu le pardon. Ça vaut la peine juste de voir ce psaume. C'est juste les premiers versets du psaume 32. Qui vous montre l'état d'un homme qui est croyant. Heureux celui qui a à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Et alors, j'ai dit, je confesserai mes transgressions. Alors, c'est le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Et pour que vous ayez la référence exacte où vous pouvez lire comment Nathan a fait connaître à David que ce qu'il avait fait ne plaisait pas à Dieu, c'est dans le chapitre 12 du deuxième livre de Samuel. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Il la regardait comme sa fille. » Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. » Et Nathan dit à David, « Tuez cet homme-là. » Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon, etc. » C'est quelque chose, ça. Souvenez-vous de cela. Un homme fidèle qui a écrit des beaux psaumes, pour un moment où il ne veille pas, il tombe. Alors, nous terminons. Mais vous voyez que chacun de ces noms est évocateur. Eh bien, il n'est pas question, là, des fautes de David dans l'Épître aux Hébreux. Il est question simplement de ses exploits. On pourrait parler de Samuel et des prophètes, verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Maintenant vous voyez tout ce que cela vous dit. Il y a eu un Daniel, il y en a eu d'autres. Éteignirent la puissance du feu, les jeunes Hébreux s'échappèrent du tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, Naaman le Syrien et d'autres, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, vous les connaissez, la Tsunamite et la veuve de Sarepta, d'autres furent livrés aux tourments et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu hommage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et cette perfection, eh bien, nous l'aurons dans le retour du Seigneur Jésus qui nous introduira dans ces choses. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné ta parole pour nous enseigner, et nous te demandons que tous ces hommes dont nous venons de parler, toutes ces femmes dont les actes viennent d'être évoqués, nous enseignent, et que tout notre comportement soit dominé par leur exemple. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, de vouloir nous enseigner nous comprenons que ce que veut dire toute ta parole est inspirée de Dieu et utile pour nous convaincre, pour nous instruire. Et nous voulons te demander que nous puissions vivre dans la compagnie de tous ces saints et connaître ce que veut dire la communion des saints. Et prépare-nous pour la suite de cette étude. Et que nous puissions repasser, comme Marie, toutes ces choses dans nos cœurs. Et instruits par elles, que notre vie soit de plus en plus transformée à ta louange et à ta gloire. En Jésus. Amen.
Amen.
Alors, ce matin, nous avions, dans la suite de notre étude sur les droits du Fils de l'homme, le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux à considérer. Nous allons le dire. Nous sommes donc aussi, puisque... Oh, mais je peux reprendre. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je crois que jusqu'ici, il n'y a pas de difficulté. Vous savez ce qu'est cette grande nuée de témoins, mais vous comprenez bien qu'il s'agit, quand nous lisons l'Écriture, de ne pas ouvrir sa Bible puis lire chapitre 12, comme cela. Alors, on ne sait pas trop qui sont ces témoins. Mais pour savoir qui sont ces témoins, il faudrait lire le chapitre 11, automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas lire avec intelligence le chapitre 12 si vous n'avez pas lu le chapitre 11. Et c'est toujours ainsi. Alors, donc, un livre, on le lit depuis la première page jusqu'à la fin. Souvenez-vous que vous aurez toujours intérêt à agir de cette manière. Cette nuée de témoins, ce sont donc tous ces anciens dont nous avons l'histoire dans la Bible, et puis ils ont illustré cette vérité que dans tous les temps, le vrai juste, il vit de quoi ? De foi. Le juste vivra par la foi, il vit de foi. Alors, pour courir cette course, nous l'avons montré, il faut rejeter tout fardeau. Le fardeau, bien, c'est le souci que l'on se fait. On s'embarrasse dans les affaires de la vie. Nos pensées sont encore aux choses terrestres. On est toujours accaparé par mille choses. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions qu'il n'est nécessaire d'être occupé que d'une chose. Rechercher le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Alors, vous relisez l'enseignement de Jésus dans le sermon sur la montagne. Pourquoi vous faites-vous du souci ? Regardez les oiseaux du ciel. Considérez les lys des champs. Vous vous faites du souci pour le manger, le boire. Vous vous faites du souci pour votre vêtement. Mais les oiseaux sont plus heureux que vous. Mais vous, vous valez beaucoup mieux qu'eux. Alors, souvenez-vous, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Et pour moi, je suis arrivé à considérer mes soucis, quand je m'en fais, comme des péchés. Et je ne puis me débarrasser de mes soucis que quand les confessant comme étant des péchés. Quand je me fais du souci, je pêche. Et alors, je sais que quand je pêche, je n'ai qu'une solution pour retrouver la joie de mon salut, c'est de confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et pour moi, quand j'ai compris cela, ça a été une grande délivrance. Et alors, en plus du souci, on sait très bien que le péché, dans le monde où nous vivons, peut nous envelopper très facilement. Tout est fait pour exciter nos convoitises. Alors, si je tolère dans mon cœur un certain penchant, eh bien, automatiquement, je trouve dans le monde tout ce qu'il faut pour nourrir mon penchant. Et alors, ce n'est pas en nourrissant nos penchants que nous allons faire des progrès. C'est en y renonçant. C'est en nous jugeant de nos penchants. Et si nous estimons, mais moi c'est pas grand-chose ce péché qui m'enveloppe, c'est un péché mignon. Moi, j'ai entendu un prêtre me le dire, ça, le père prieur à Fribourg, en Suisse. J'avais été invité chez les pères dominicains, et il m'a dit, vous savez, nous, ici, on a seulement ce petit péché mignon. Vous savez ce qu'était le péché mignon? Après avoir mangé en silence, on allait au fumoir. Et puis, je me suis trouvé, j'avais 21 ans, j'étais le seul à ne pas fumer. Alors, ils étaient un peu gênés. Et le père prieur m'a dit, vous comprenez, c'est notre petit péché mignon à nous les moines. Bon, mais moi je ne les jugeais pas, c'était leur affaire. Mais c'est peut-être le fil de soie pour certains. Alors, faisons attention, peut-être que c'est l'avarice chez Judas. Il ne s'était jamais jugé d'une tendance de son cœur, il aimait l'argent. Puis un jour, son péché l'a trouvé. Elle a possédé. Alors, coupons court à tout cela. Ce que le Saint-Esprit nous révèle, nous le confessons. Parce que nous voulons courir la course avec persévérance. Car l'apôtre Paul ne prétendait pas qu'il arriverait à la parcourir cette course. Il y en a qui n'arrivent pas à la fin de la course, qui sont retranchés avant. Nadab et Abihu ne sont pas arrivés. Ils ont été retranchés avant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, aux anciens qu'il a réunis à Milet, « Pourvu que j'achève la course. » On dit, mais Paul, mais elle est assurée, ta course. Non, non, il dit, « Pourvu que j'achève ma course. » Ce qui compte, c'est que j'arrive au bout. Alors, je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à mes yeux. Ce qui compte, c'est que j'achève ma course et que j'accomplisse le service que j'ai reçu du Seigneur. Et quand il arrive à la fin de sa vie, il dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Alors, nos regards sont fixés sur Jésus, non pas sur les témoins, mais sur Jésus parce que Jésus est devant nous. Lui, il a achevé la course. Il a eu un chemin dans lequel il est descendu. C'est ce chemin d'épreuve qu'il a connu et où il a été un modèle parfait. Mais comme homme, pour traverser toutes ces épreuves, il avait besoin d'un encouragement. Et quel a été son encouragement? C'est de se dire qu'à la fin de toutes ces souffrances, de toutes ces humiliations, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait? D'être assis à la droite de Dieu, mais pas seulement pour lui-même, d'y faire asseoir tous ceux qu'il aurait rachetés. C'était ça la joie qui était devant lui. Il avait une telle joie en pensant un jour, mon père qui voulait des adorateurs, eh bien je les lui présenterai. Je lui aurai trouvé ses adorateurs. Alors ça vaut la peine de tout souffrir pour que mon père soit satisfait. Il avait dans son cœur un mobile qui, en tant qu'homme, le poussait à traverser toutes ses épreuves, à ne pas se détourner de cette ville de Jérusalem où il allait connaître les plus grandes humiliations. Il y avait une joie devant lui. Alors méditez sur ce verset 2. La joie qu'il avait, quelle était la joie du Seigneur qui lui a permis de souffrir la croix? Parce qu'en souffrant la croix, par la croix, il allait sauver une multitude de personnes. Il a méprisé l'ignominie. Et quelle ignominie? Il l'a méprisé, mais en étant l'homme de douleur. C'est pas un hautain qui se raidit et qui méprise l'ignominie. Jésus, il est dit que quand on le voyait à la fin de son ministère, comment était son visage ? Défiguré, défait, plus que celui d'aucun homme. Il avait peu dormi, son visage était tiré humainement, pas des conséquences d'un péché particulier, il était sans péché, mais il avait accepté de revêtir un corps de faiblesse, un corps qui serait soumis aux conséquences du péché et qui pourrait subir la mort. Mais toutes les souffrances, Jésus les a endurées. Ce n'est pas parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait la puissance de faire des miracles qu'il n'a pas eu faim. Il a refusé d'employer sa puissance pour se satisfaire, pour apaiser sa faim. Quand le diable lui dit, mais toi c'est bien facile, de ces pierres fais du pain puisque tu as faim. Il aurait pu le faire. Mais il n'a jamais employé sa puissance pour lui-même. Comprenez-vous ? Voilà ce qu'a été le Seigneur. Et c'est lui que nous devons regarder. Et la joie qui était devant lui, ben, c'est de savoir qu'après la croix, il y aurait aussi la résurrection. Le matin de Pâques, et ce bonheur de cette multitude qui reverrait le Seigneur. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Et puis il s'asseyerait dans la gloire de son Père. Mais, verset 3, alors, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Essayez de faire une étude biblique sur l'opposition que le Seigneur a rencontrée sur la terre. Il a vraiment eu tout contre lui. Il a porté la grâce. Et sa grâce, elle ne rencontrait quoi ? Que l'inimitié. Son autorité ne rencontrait que la révolte. Sa sainteté ne rencontrait que le péché. La haine des hommes l'a poursuivi. Et figurez-vous qu'il a été constamment menacé de mort. Il a subi plusieurs attentats. On en trouve 7 dans l'évangile de Jean. Il a été arrêté. Il a été jugé. Il était mis à mort, considéré comme un inique, lui qui était le souverain juge des vivants et des morts. On a rejeté ses paroles de grâce et on a attribué ses miracles à qui ? À Belzébuth, à Satan. Donc on ne peut pas avoir été plus contredit que cela. S'il y a quelqu'un qui a été contredit dans ce monde, c'est Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui est encore contredit dans ce monde, c'est Jésus et ses disciples, les chrétiens qui vivent près de lui. Alors, quand vous avez l'exemple de Jésus devant vos yeux, et quand vous vous dites, bien, voilà, je repasse en revue l'opposition qu'il a eue, quelle est l'opposition que je rencontre, moi ? C'est bien minime encore. Hein ? Il suffit, disait Jésus, aux disciples qu'ils soient comme son maître. Est-ce que ça vous suffit d'être comme votre maître ? Puis voilà, tout à coup, vous voyez le visage du maître. Comment il a été humilié. Est-ce que ça me suffit d'être comme toi, Seigneur ? Un jour, le Seigneur me l'a dit ça. Dans mon cœur, est-ce qu'il te suffit vraiment d'être comme moi ? Puis il m'a montré comment il avait été. Bien, j'ai vu qu'il y avait encore de la marche. Je peux encore descendre, descendre, descendre encore. Il n'a pas pu descendre plus bas. Alors moi, je peux encore descendre. Et estimez-le comme un honneur quand le Seigneur vous fait entrer un peu plus profondément dans la communion de ses souffrances. C'est un honneur. Je t'ai choisi au creuset de l'affliction. Être estimé digne de souffrir, mais c'est un honneur. Eux dans le monde n'était pas digne. Est-ce que le Seigneur peut dire, tu es digne de souffrir ? Je t'associe, je te prends plus près de mon cœur pour te faire ressentir tout ce que j'ai moi-même ressenti. Alors on n'a plus l'âme découragée. Il y a un encouragement puissant. Et puis, alors au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, ça c'est le péché qui vient du dehors, comme nous l'avons dit tout à l'heure. On a vu le péché qui vient du dedans, dans le verset premier. Au verset 4, c'est le péché qui vient du dehors. Jésus l'a connu, mais il n'a pas connu le péché venant du dedans. Tout était pur en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang? Vous n'êtes pas encore mort, vous n'êtes pas encore des martyrs. Et en luttant contre le péché, eh bien, vous n'avez pas encore dû tellement souffrir. Est-ce qu'on souffre beaucoup parce qu'on lutte contre le péché, nous autres? Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Est-ce qu'on la connaît, cette lutte contre le péché? On cède plutôt au péché. On cède au péché. On ne lutte même pas, on dit à quoi ça sert. Et puis, il n'y a pas tellement de mal à cela. Puis, tout le monde le fait. Et alors, on se rassure. Et vous avez... Parce que aussi, on ne sait plus ce que c'est que le péché. Or, le péché, c'est le péché. Et notre conscience nous le dit bien. Alors, vous qui n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, vous qui n'avez pas encore connu le martyr, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et vous avez ce merveilleux passage des Proverbes. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mais vous voyez, nous, on a eu des fois des pères au visage coléreux. Et alors, on voit le visage de ces pères selon la chair, et puis on reporte ce visage sur notre Père céleste. Puis il y a de nouveau toute cette imagerie saint-sulpicienne qu'on a trouvée dans les catéchismes, où l'on voyait Dieu, le Père, comme un grand père avec une grande barbe, et qui était plutôt là, paralysé dans son fauteuil, il ne pouvait plus faire grand-chose. On pouvait s'arranger avec lui. Ou alors, c'était le père Fouettard. Comment? Ou le père Gâteau, le père Fouettard. Alors, il y a deux conceptions, n'est-ce pas, de ce père éternel. Pour les uns, c'était le bon Dieu, qui passe l'éponge sur tout, avec qui on peut toujours s'arranger. Et puis, pour les autres, alors, c'était le juge. Et puis, dans l'éducation, j'ai rencontré des professeurs de théologie qui m'ont dit qu'ici au Québec, en tout cas, ils avaient vécu vraiment dans la crainte. Pour eux, ils disaient qu'il ne fallait plus parler de Dieu comme d'un père. Parce que c'était une image qui n'était pas acceptée. Au Québec en particulier, il y a eu de trop mauvais pères. Il y avait de trop mauvais pères au Québec, et que si vous présentez Dieu comme un père, eh bien automatiquement, ceux auxquels vous parlez ont un mauvais souvenir. Et alors, comment est-ce qu'il faut le présenter, Dieu, si ce n'est pas l'image d'un père? Et on a pris Marie, oui. On a pris Marie parce qu'on pense que qu'elle est plus douce. Mais c'est assez vrai ce que tu dis là. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on dit, avec la maman, on s'arrange. Derrière le dos de papa. Puis tu raconteras à papa après. Alors, on demande à maman la permission qu'on n'oserait pas demander à papa. Puis après, ben, père et mère s'entendent. Comment? Ou ils ne s'entendent pas, hein, puis alors c'est le divorce. Mais c'est pour ça, nous transposons nos images terrestres dans le céleste. Au lieu de chercher nos images dans le céleste, et ça changerait tout, hein. Il y a une purification. Quand vous êtes un peu entré dans les choses célestes, vous ne voyez plus les choses terrestres de la même manière. Elles sont corrigées. Alors, il faut faire connaître le visage du Père. Et quel visage est-ce que je peux prendre pour faire connaître le Père? C'est Jésus. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors, si les Québécois ne connaissent pas Dieu comme un père, qu'est-ce que je dois faire? Je dois justement le leur faire connaître. Les amener à la connaissance de ce père. Mais qui emploierais-je pour leur faire connaître le visage du père?
Jésus. Je leur prêcherai Jésus. Et il est dit, quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit, quand Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est dans le visage du Christ que toutes les perfections divines ont été manifestées. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de connaissance réelle et complète de Dieu en dehors de Jésus-Christ. La nature vous parle d'un créateur, hein, c'est vrai, vous le chantez. Mais le cœur de Dieu, vous ne le trouvez qu'en Jésus-Christ, dans ses perfections absolues. Lumière, justice, sainteté, amour, grâce, puissance, tout cela a été manifesté en Christ. Et alors maintenant, je sais que Dieu, étant un bon Père, un Père juste, un Père saint, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il ne peut pas vouloir mon mal. S'il me châtie, c'est parce qu'il m'aime. S'il me frappe de la verge, si je désobéis, eh bien, c'est parce qu'il me reconnaît pour son Fils. Alors, j'accepte. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, mais comme des fils qui ont vraiment une relation avec le Père. Est-ce qu'il y a une relation d'amitié entre l'enfant et son Père? C'est cela qui doit exister entre un vrai enfant de Dieu. Mon Père céleste, que je révère, eh bien, je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime et je sais que je peux toujours aller à lui me confiant en lui, même si j'ai été l'enfant prodigue. L'image du Père, Jésus nous l'a donnée. C'est pourquoi au lieu de parler de la parabole de l'enfant prodigue, on a dit quelquefois qu'on devrait parler de la parabole du Père. Parce que qui est-ce qui est là? La grande figure de cette parabole, c'est le Père. Le Père qui n'a que des sentiments d'amour pour son Fils, qui au fond aurait bien aimé que le Père meure pour avoir tout de suite l'héritage. Et à un moment donné, il a bien besoin d'apprendre que son Père vit. Et quand il revient à la maison, eh bien, c'est le Père qui l'accueille. Mais s'il avait que le frère pour l'accueillir, ce serait dramatique. Le frère aîné. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Mais je sais que même pour certains fils, ça a posé un problème, cette question des épreuves. Et alors, je vous citerai le cas de Job. Vous lisez tout le livre de Job. Le cas d'Asaph. Au psaume 73, il dit, j'ai regardé ce qui se passe chez les méchants, et il m'a semblé qu'ils avaient beaucoup moins d'épreuves que nous. Moi, mon châtiment, il revient chaque matin. Tous les matins, j'ai de nouveau la même peine. Et alors, il dit, pendant un temps, eh bien, la difficulté a été très grande à mes yeux, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de Dieu. Puis là, alors, j'ai compris. Et puis, Jérémie lui-même, au chapitre 12, il dit, « Oh Dieu, tu es juste, toutefois, je voudrais quand même un peu parler avec toi au sujet de tes jugements. Hein. Il y a quelque chose que je pige pas. Il y a quelque chose que je comprends pas. Mais tu es juste, mais tu me permets quand même de te poser une question. Pourquoi? 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 Voilà, c'est bien nous autres. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre? Que Job... Quand il a eu des mauvais moments au sujet de la justice de Dieu, qui s'est posé des questions, Taza lui-même, quand il a été très troublé, qu'il a trouvé que ça c'était un sujet très pénible, et les difficultés de Jérémie, chez ces trois hommes qui étaient des saints hommes de Dieu, qui étaient des gens pieux et fidèles, ce qui leur manquait, c'était une intimité plus grande avec Dieu. Quand vous ne comprenez pas, c'est pas que Dieu vous empêche de comprendre, mais que c'est, vous n'êtes pas encore assez près de lui. Rapprochez-vous, n'ayez pas peur de ce Père, jetez-vous dans ses bras. Ne faites plus des efforts pour comprendre ses pensées, croyez sa parole quand il vous dit, « Je connais les pensées que j'ai à votre égard, ce sont des pensées de bien et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance. Mais souvenez-vous toujours que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ces voies ne sont pas nos voies, que nous n'aurions pas toujours choisi le chemin dans lequel il nous fait marcher. Mais puisque lui est Dieu et que moi je ne suis qu'un homme, borné, fini, limité, et que lui est l'être infini, je fais confiance à qui ? Je fais confiance à Dieu. Un enfant, pour ne pas être troublé, il n'a pas besoin d'avoir toutes sortes d'explications. Son père lui dit, je suis là. Et heureux l'enfant auquel le père ne lui dit pas tout ce qui va arriver. Tu comprendras plus tard. C'est ce que dit Jésus à Pierre. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le sauras dans la suite. Fais-moi confiance, laisse-toi faire. C'est toujours ça, le service du Seigneur, c'est pas faire des choses pour le Seigneur, c'est se laisser faire. Et alors je reviens à Marie, car on en a bien besoin de son exemple. Pour ceux qui ont pensé que nous mettions Marie de côté, pas du tout. Elle est un exemple pour nous, c'est elle qui nous a enseigné que nous devions nous laisser faire par Dieu lui-même, qui accomplira sa volonté en nous. Alors, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Si vous êtes exempt du châtiment, auquel tout son part, vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères... Il a le diable dans son moteur. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, vous comprenez ce que ça veut dire, ça. Il n'y a pas de problème, là. Nos pères, selon la chair, c'est papa et maman. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos parents, ce qu'ils ont touché, c'est surtout nos corps. Et puis, nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'étaient pas toujours, peut-être, extrêmement bien dirigés dans leurs décisions pour nous. On a peut-être souffert de certaines injustices. Il y a des choses qu'ils ne voyaient pas, parce que nous sommes humains. Et nous, dans l'éducation que nous avons fait avec nos enfants, peut-être que nous nous sommes trompés quelquefois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'est trompé avec son enfant ? Il faut lui demander pardon. Vous ne perdrez jamais votre autorité en demandant pardon à votre enfant. Vous vous êtes trompé, puis vous le reconnaissez devant votre enfant. Et cela, ça vous liera encore davantage à votre enfant. Mais est-ce que Dieu peut, lui, se tromper ? Si nous avons accepté la discipline de nos parents qui pouvaient se tromper, pourquoi n'accepterions-nous pas la discipline de notre Père céleste, du Père des esprits ? Car le corps retournera à la poussière. Le corps a été formé dans le sein maternel. Le corps est venu de là. Chair, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit, et notre esprit, c'est ce que nous avons reçu de Dieu. Notre corps tiré de la poussière et retournera à la poussière, mais notre esprit, nous l'avons reçu de Dieu, et quand nous mourons, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, c'est pourquoi il est appelé le Père des esprits, aussi de notre esprit. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, j'ai expliqué ce que ça veut dire, de l'enfance à l'adolescence, c'est peu de jours quand même, qu'on a été vraiment sous la discipline paternelle. Vous êtes tout de suite émancipés maintenant. Et ils nous châtiaient comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, mais faites confiance à Dieu et vous n'aurez plus de problème, afin que nous participions à sa sainteté. C'est cela qu'il voudrait, que nous devenions semblables à lui, qu'on ne dise pas simplement que nous sommes des enfants de Dieu, mais que nous ressemblions à notre Père des cieux, que nous soyons comme notre Père des cieux. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Et il est vrai aussi que le Seigneur ne vous demande pas d'être stoïque. Nous pouvons pleurer dans certaines de nos épreuves. Et il ne nous demande pas d'être nécessairement joyeux dans ces moments-là. Quoi qu'il soit dit, soyez toujours joyeux. Mais n'essayons pas de faire les super spirituels. Comprenez-le. Moi, je sais qu'un père a obligé à la mort de sa femme, j'y ai passé aussi, la mère de mes enfants, mais je n'aurais jamais pu faire une chose de ce genre. Il a obligé ses enfants d'aller autour de la fosse pour bien montrer le témoignage chrétien et de chanter, là, à plein poumon, un cantique à la mort de sa femme, qui était la mort de leur mère. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu dans le cœur de ses enfants qui avaient 10, 12, 14 ans, surtout dans celui qui avait 14 ans, une révolte complète, totale, qui venait de ce fait qu'à un enterrement, on a voulu qu'il chante. Mais son cœur n'était pas à chanter. Et c'est pourquoi vous pouvez peut-être chanter si vous êtes dans cet état-là, mais il y a quand même un moment où on peut aussi pleurer. On ne pleure pas comme ceux qui sont sans espérance, on ne s'abandonne pas, mais il y a quand même aussi une certaine décence. Bien sûr, si vous êtes convaincu et que vous êtes pénétré que l'être que vous avez perdu est mieux où il est qu'auprès de vous, parce que le Seigneur est tellement meilleur que nous ne le sommes, eh bien, soyez spirituel pour vous-même, mais n'imposez pas votre spiritualité à vos enfants. Comprenez qu'ils sont dans la souffrance et ne les violentez pas. Et ne faites pas les heureux au jour où l'on pleure. Vos enfants pleurent. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a vu quelqu'un pleurer à un tombeau? Il n'a pas dit non, fini. Il a pleuré d'abord. Pourtant, il allait ressusciter Lazare, mais il a pleuré. Il est entré en sympathie avec Marie. Alors, vous comprenez bien maintenant le sens de ce verset. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. C'est plus tard qu'on se dit... Il a été bon pour moi que j'ai passé par cette épreuve. D'abord, je suis dans un monde où tout autour de moi, il y a des gens éprouvés. Et quand je dois leur parler, si moi je n'ai pas passé par certaines épreuves, ils disent automatiquement, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'y avez pas passé. Que de fois j'ai été aidé par mes 4 années de maladie. Quand j'entrais à Lesins, dans ces sanatoriums de tuberculeux, et puis que j'en voyais qui disait, ah, vous êtes en pleine santé, nous on est là depuis 3 mois. Moi j'ai dit, oh, mais c'est pas encore très long. J'ai dû y être 4 ans. Alors ça faisait un pont automatiquement. Comprenez-vous? Alors la maladie, les épreuves qu'on a eues dans le passé, nous servent. Parce que, comme quelqu'un l'a cité, c'est 2 Corinthiens 1, verset 3 et suivant, il nous console à l'égard de toute notre affliction pour que nous soyons capables de consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit. Mais nous devons passer par des afflictions pour cela. Alors verset 12, si nous avons connu cela, fortifiez donc les mains languissantes. Qu'est-ce que ça veut dire cela, les mains languissantes? C'est ceux qui ne sont peut-être découragés et qui ne prient plus, qui auraient tendance à ne plus prier, à dire à quoi cela sert de prier. Les mains languissantes, c'était qu'on étendait avant, en Orient, quand on priait, on levait les mains. La plupart du temps, on lève les mains en Orient, quand on prie. Alors, ces mains sont devenues languissantes. Vous vous souvenez que Moïse levait les mains, tant qu'il avait les mains levées, eh bien, il y avait la victoire pour Josué. Et alors, ces mains étant pesantes, il a fallu l'aide d'Aaron et de Hur, qui l'ont soutenu. Alors, quand vous êtes fatigué dans la prière, tout seul, vous avez un frère, une sœur, vous mettez à 3 peut-être, hein, et puis vous aurez la victoire. Rassemblez-vous, ne restez pas seul. vos mains deviennent languissantes. Demandez à un frère de prier avec vous. Demandez à une sœur. Et puis, et vos genoux affaiblis. Qu'est-ce qui arrive quand mes genoux sont affaiblis? J'ai de la peine à marcher. C'est la marche qui est atteinte. Je suis fatigué de ce chemin. Il y a tellement d'épreuves sur ce chemin. Je ne peux plus aller de l'avant. Puis on a la tendance de s'asseoir au bord du chemin, alors qu'il nous faut avancer. Car il est dit, leur force se renouvelle quand ils s'asseyent. Dans la marche, psaume 84, heureusement qu'il y en a ici pour corriger mes hérésies. Leur force se renouvelle non pas au stop, leur force se renouvelle quand ils avancent. La victoire, la délivrance est devant nous. Ils marchent de force en force pour paraître en Sion. Et suivez avec vos pieds des voies droites, pas des sentiers détournés, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Il faut toujours nous proposer des voies droites. Tout chemin ténébreux, tout chemin qui n'est pas clairement tracé, je n'y marche pas. Nous devons marcher avec une conviction que nous sommes dans la bonne voie. Et nous avançons vers le but. Mais si nous sommes dans une voie détournée, nous n'allons pas plus loin. Et c'est ainsi que nos pieds seront fortifiés. Il rend mes pieds pareils à ceux des biche, qui marche sur des lieux haut élevés. Vous pouvez comprendre de plus en plus le langage de l'écriture. Vous apprenez le langage des choses célestes. Eh bien, on est en plein dans l'Épître aux Hébreux et je pense constamment à des textes des psaumes qui viendraient éclairer d'une lumière éblouissante ces textes. Recherchez la paix avec tous. Est-ce que c'est ça que nous faisons? Recherchez la paix avec tous. Nos pieds doivent être chaussés des chaussures de la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la paix. Et la sanctification. La sanctification, eh bien, c'est cette séparation du mal, cette séparation de ce qui déplaît à Dieu. Celui qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Faites votre choix. Et quand vous me dites, mais qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce qui est juste dans le monde? Eh bien, souvenez-vous de l'Écriture. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors je me dis, est-ce que cette chose est du Père? Si je ne peux pas dire qu'elle est du Père, c'est qu'elle est du monde. Et qu'est-ce qui est dans le monde? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si je me rends compte que les choses qui occupent mes pensées, eh bien, font partie de ces choses charnelles, de ces choses qui plaisent uniquement aux yeux et de ces choses qui flattent mon orgueil, je mets cela de côté. Parce que je sais que le Seigneur veut ma mise à part, ma consécration. Parce que sans la sanctification, sans cette mise à part, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que si réellement vous avez été justifié par le Seigneur Jésus, si votre justification n'a pas été simplement une adhésion intellectuelle à la doctrine de la justification par la foi, si vous avez cru dans votre cœur, eh bien, cette justification par la foi est nécessairement suivie d'une sanctification. Il n'y a pas de justification réelle qui ne soit suivie de sanctification. Cette sanctification, c'est marcher dans les traces du Seigneur, c'est aimer ce que le Seigneur aimait. Mais il n'y a pas non plus de sanctification réelle qui n'ait pour base la justification. Toute sanctification réel a pour commencement, pour base, la justification en Christ. Toute justification réelle est suivie de sanctification. Vous ne pouvez pas séparer les deux choses. Alors, quand il est dit « sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur », ça veut dire qu'un homme qui prétend être sauvé et qui marche continuellement dans le mal, dans le péché, où l'on voit que c'est l'amour du monde qui le domine, je peux douter de quoi ? De sa conversion. De la réalité de sa conversion. Et c'est un verset qui me fait réfléchir et qui me fait me contrôler. C'est comme un test. Et alors, plus loin, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, nous avons tout reçu. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes ensuite instruits par la grâce. C'est la grâce qui nous enseigne, ce n'est plus la loi. La grâce de Dieu nous enseigne comment vivre dans la piété, dans la justice et dans la sobriété. Pieusement quant à Dieu, justement quant à mes frères et sobrement quant à moi-même. Voilà ce que la grâce m'enseigne. Elle me sauve, elle m'enseigne. Puis qu'est-ce qu'elle fait encore ? Elle me fortifie. Fortifie-toi dans la grâce. Et puis qu'est-ce que Paul apprend ? Que sa grâce est suffisante. La grâce de Dieu est pleinement suffisante. Ma grâce te suffit. Alors, bien-aimés, veillons pour ne pas nous priver de la grâce de Dieu. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Ce n'est pas la grâce qui vous privera de quelque chose, mais c'est vous qui vous priverez de la grâce de Dieu. Alors veillez à cela. Et puis, qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Faites bien attention à cela. Ne laissez pas une racine d'amertume dans votre cœur. Demandez au Seigneur qu'il l'enlève et jugez-vous de toute racine d'amertume. Je n'ai pas accepté ça. Non, Seigneur, je ne l'ai pas accepté. Eh bien, dites au Seigneur, donne-moi de pouvoir l'accepter. Parce que tôt ou tard, cette non-acceptation, ce refus, par exemple, de pardonner, de faire quelque chose que vous savez devoir faire, puis vous refusez, eh bien, ça, moi, je ne le vois pas, c'est dans votre cœur. Hein. Les racines, moi, je ne les vois pas, même s'ils m'appellent racine. C'est souterrain, les racines. Mais vous savez que dans la racine, il y a tout ce qui sera manifesté un jour dans le fruit. Il y a dans la racine tout ce qui sera manifesté dans le fruit. Alors, tôt ou tard, ce qui est caché sera révélé. Ça bourgeonnera en haut. Ne pensez pas que ça va rester caché. Tôt ou tard, il y aura manifestation du réel état de votre cœur. Alors, voyez cela. Pour Judas, ça a été le cas. Et puis, pas seulement pour Judas, mais pour Ésaü. Et alors, ça infecte plusieurs. Et qu'il n'y ait pas d'impudique ni de profane comme Ésaü, le frère donc de Jacob, qui pour un mets, c'était quoi ce mets ? Des lentilles, un plat de lentilles, il vendit son droit d'aîné. Vous vous rendez compte qu'il méprisait Dieu ? Vous savez que plus tard, parce que c'est toujours ça, plus tard, on veut bien, mais pas aujourd'hui, plus tard. Bien, ne dites pas plus tard, parce que plus tard, quand vous le voudrez, obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicitât avec larmes. Ce que j'ai souligné tout à l'heure, la prière faite avec larmes d'habitude, à travers toute l'Écriture, elle est exaucée. Dieu ne résiste pas aux larmes, mais le Seigneur sur la terre n'a pas résisté aux larmes, il a pleuré. Car son repentir ne put avoir aucun effet. Et c'est là que je souligne que Ésaü est la clé des versets du chapitre 6 des Hébreux et du chapitre 10 au sujet de l'apostasie, de ceux qui ne peuvent pas être renouvelés à la repentance. Et alors plus loin, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût plus adressé, car il ne supportait pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. C'est Exode chapitre 19 que vous lirez cela. Et à ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Vous ne trouverez pas ça dans le chapitre 19. Dans le chapitre 19 de l'Exode, on a les faits extérieurs, on voit Moïse extérieurement, mais ce qu'il pensait, ce qu'il éprouvait, ça ne nous est pas dit. C'est ici dans les Hébreux que le Saint-Esprit nous révèle les pensées qu'avait Moïse quand il était sur cette montagne. Lui-même était tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés. Vous voyez, c'est toujours l'Épître aux Hébreux où il montre que nous avons quelque chose de meilleur. Dans le christianisme, nous avons quelque chose de meilleur que dans le judaïsme. Comprenez-le bien, on est toujours dans l'Épître aux Hébreux où le Seigneur est montré supérieur. Et vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Et alors, cette montagne, nous allons la gravir. Hein? Et qu'est-ce qu'on trouve d'abord sur la première pente, quand on arrive? On trouve les indigènes, hein, c'est-à-dire les anges. Hein. Il y a d'abord cette myriade d'anges. Autour du trône, il y a d'abord les anges. Puis, quand vous allez plus loin, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, vous trouvez l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Ce sont ces enfants qui ont été adoptés par Dieu en vertu de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. L'assemblée des